Il dit, j'aime bien, je kiffe cette phrase.
Engagé pour l'éducation populaire.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Ce soir, on va commencer par, on va faire une émission d'une heure sur un sujet d'actualité, puisque vous avez pu entendre tous les médias du week-end qui étaient branchés violence dans les Deux-Sèvres. Donc, je crois qu'il était intéressant peut-être de revenir là-dessus, entre autres d'interviewer quelqu'un qui était sur place. On a nommé Gérald. Gérald, tu m'entends?
Oui.
Oui, alors, t'es revenu hier soir, je crois, de...
Oui.
Hein? Alors, dis-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quel bilan tu tires, voilà.
Bah, écoute, déjà, là, ça passe bien, là, il n'y a pas trop d'écho.
Non, c'est bien, non, c'est pas bien. De problème.
Moi, je suis arrivé vendredi au début de la journée, hein, pour être tranquille au niveau de la zone rouge, parce que la préfète des Deux-Sèvres a posé une zone rouge qui concernait une douzaine d'agglomérations et avec interdiction de circulation en véhicule, avec des contraventions à la clé. Donc je suis arrivé nettement en avance. Et il y avait déjà des gens depuis mardi qui montaient des chapiteaux, des barnums, des cantines, etc. Donc super au niveau de la logistique, il n'y avait vraiment rien à dire, hein, c'était très bien organisé. Il y a vraiment du savoir-faire et de l'énergie. Et les gens sont arrivés peu à peu. Mais ils sont arrivés en plus là, ce qui était assez drôle, c'est de voir le rush final, parce que en fait l'interdiction de circuler commençait à 20h et à 20h-5 à l'entrée du camp, tout le monde s'est précipité en voiture, ça arrivait de partout, c'était impressionnant.
D'accord.
Et on s'est retrouvé plusieurs milliers.
On parle de 4000 personnes présentes au moment le plus important du week-end. Tu le confirmes? C'était des choses...
Ah non, il y avait plus.
Plus?
D'accord. Ouais, parce qu'en fait, c'était compliqué. C'était assez compliqué, même avec des spécialistes qui étaient présents, d'estimer le nombre. Mais il y a eu un moment donné où... je raconterai plus en détail tout à l'heure... Les trois colonnes qui s'étaient retrouvées devant la bassine sont revenues au camp et là il y avait un cortège ininterrompu sur pas loin de 2,5 km, 3 km. Et là on a vraiment vu qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait plutôt 7 à 8 000 personnes, je crois.
D'accord.
Ouais, c'est ce qui a été dit hein, au niveau des organisateurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'historique, puisque c'était la quatrième manif depuis un an?
Alors, effectivement, il y a à peu près un an, c'était au mois de novembre, il y a eu la manif du Mauzé-sur-Bignon. C'est à l'ouest de Sainte-Soline. C'est de l'autre côté de Niort. Et en fait, ça jouxte plus le Marais Poitevin. Et là, il y avait déjà eu un épisode d'assaut sur une bassine existante, quoi. Les flics avaient été pris à contre-pied, ils en descendaient une, avec la FNSEA au milieu. Et le cortège en a attaqué une autre et avait démonté la pompe, de façon à ce que la flotte revienne au Mignon, qui était à sec à l'époque, hein, parce qu'ils pompent tellement que les rivières sont à sec là-bas, hein, mm-hmm. le marais ça sèche. Et donc, et ils avaient aussi enlevé la membrane plastique, quoi, c'est une sorte de bâche plastique qui étanchéifie et qui rend complètement artificielle d'ailleurs toute la superficie de la bassine. Quoi. Ouais. Donc ça, c'était une manif il y a un an. Il y a eu une manif au mois de mars qui était très bien aussi, où là, il y avait une montée en puissance parce qu'on était passé de 600 à 5000. On avait fait un long cortège, une longue chute, et il y a eu entourer les futurs périmètres des projets de bassine pour visualiser par une haie de personnes, quoi. Et à l'occasion, on avait démonté un tuyau d'irrigation qui irriguait déjà d'autres terrains à côté, avec la grande culture, quoi, la grande agriculture, quoi. Ça, c'était les deux événements les plus marquants. Sinon, faut bien voir que la principale composante qui lutte contre les bassines, c'est bassine non merci, qui existe depuis 5 ans, quoi.
5 ans.
Fait du travail d'information et un travail d'explication et de dénonciation qui est permanent, quoi.
Oui, peut-être que pour que les auditeurs comprennent un peu ce dont on parle, et puis pour essayer aussi de saisir le succès de cette manifestation à Sainte-Soline et pourquoi elle a été aussi réprimée, pourquoi ils ont fait un jeu, faudra peut-être revenir. Est-ce que tu pourrais nous aider à revenir sur ce qu'on appelle le mouvement contre les méga-bassines, ou en tous les cas déjà expliquer ce que c'est qu'une méga-bassine et comment et pourquoi depuis quelques années il y a des contestations autour de l'apparition de ces structures qui sont notamment liées à l'agriculture intensive. Alors d'abord, oui, première question, pour être un peu plus clair et diriger ton propos, qu'est-ce que c'est qu'on appelle des méga-bassines? C'est pas des trucs, ouais.
Alors, une méga-bassine, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 18-20 hectares. Hein, celle qui a été attaquée là ce week-end, elle fait 16 hectares c'est de surface liquide et 17 hectares en tout, avec la digue tout autour. C'est tout simplement un endroit où on enlève la terre arable, on creuse, ça va jusqu'à 10-15 mètres de profondeur. Et avec la terre qu'on enlève, on la met sur les côtés, quoi. Ce qui est contre-intuitif, c'est bien expliquer que ça n'a plus rien à voir avec les étangs qui existaient dans le temps, où l'eau, par gravité, avec un petit détournement de l'eau, quoi, les ruisseaux remplissaient les étangs, quoi. Et les étangs, c'était quelque chose de naturel, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, bien sûr, il y avait un fond sous-marin argileux, mm-hmm. mais néanmoins, ça remplissait par gravité, quoi. Mm-hmm. Alors que là, les méga-bassines, c'est des réservoirs vraiment gigantesques, hein. Celui de dimanche, là, c'est 16 hectares.
C'est 16 hectares, ouais.
Et c'est pompé. Il y a une pompe. C'est-à-dire que c'est complètement artificiel. C'est complètement,
C'est pris sur soit les nappes, soit les réserves, soit les écoulements.
Voilà, c'est ça. Alors ça te vide complètement un pays de sa flotte. La bassine de Sainte-Soline, par exemple, elle a un dispositif de tuyaux qui fait 18 km de long en tout, et avec 6 points de pompage. Ah. Et normalement, c'est 145 000 m3 d'eau qui sont pompés pendant un mois pour remplir la bassine.
C'est ça. Pour les auditeurs, c'est pas le petit avaloir ou le petit déversoir qu'on peut avoir dans les vignes pour stocker, on va dire, la flotte le long des écoulements. C'est vraiment des piscines olympiques immenses, même un peu plus grands, qui sont dont l'eau est prise vraiment. Elle n'est pas recueillie, elle est prise, pompée sur les ressources naturelles.
Complètement. Et en fait, la première, la celle de Comiac qui est à Sainte-Soline, c'est la première d'une série de 6 mégabassines qui sont prévues.
C'est pas 16.
Dans les Deux-Sèvres.
Oui, dans les Deux-Sèvres, oui. Et à quoi est destinée cette flotte
Alors, c'est là que justement on voit le dispositif agro-industriel qui se cache derrière. Bon, bien sûr, tout ça, ça va venir creuser une mégabassine. Celle de Sainte-Soline, ils ont creusé le trou là en 3 jours. Mmh. Avec d'énormes pelleteuses.
Fait péter le matos. Ouais.
Donc actuellement, il y a juste le trou, hein, il y a rien d'autre, quoi. Alors déjà, il y a le BTP, quoi, qui fait son fric, son beurre là-dessus, quoi. Tout ce qui va avec l'agro-industrie, c'est-à-dire que ça permet de maintenir des cultures qui sont très gourmandes. En eau, notamment, j'ai nommé le maïs. Donc après, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire moissonneuse-batteuse, et puis semencier, engrais, pesticides. Mm-hmm. Et donc ça, alors qu'on est en train de vivre un réchauffement climatique notable, quoi, et avec un assèchement un réchauffement du climat, ça va permettre aux agro-industriels, parce qu'il ne faut plus parler de paysans ni d'agriculteurs, hein, c'est des agro-industriels,
bien sûr.
Ça va leur permettre de maintenir ces plantations-là, qui vont nourrir du bétail en batterie, ou alors c'est de la plantation qui va dans les méthaniseurs pour faire tourner les méthaniseurs, pour créer du méthane, et avec bien sûr les subventions de l'État. Parce que c'est l'État qui va en fait donner des subventions pour construire les mégabassines. Donc c'est du pognon que nous versons à l'État qui va mettre en place des dispositifs de contrôle de l'eau, quoi.
On pourrait dire que la mégabassine, elle est l'illustration parfaite à la fois de l'absurdité de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie, et en même temps le symbole de la course en avant, quoi, de la fuite en avant, parce que on va dire une mégabassine, c'est totalement inefficace, quoi. C'est-à-dire que à la fois on pompe la flotte qu'il y a autour, deux, on pète le cycle de l'eau, trois, on la rend impropre à la consommation puisqu'il y a des microalgues qui vont sur l'eau stagnante se fabriquer, donc de l'eau qui pouvait être potable et servir, elle devient impropre. Trois, elle s'évapore, donc il en faut toujours plus, etc., etc., quoi. Donc vraiment la méga bassine, c'est vraiment un excellent moyen pour analyser et dénoncer la pourriture qu'est l'agro-industrie, quoi.
Et aussi, il ne faut pas oublier que ça va obliger les populations à se rationner en eau.
Ouais.
Une denrée qui était, une donnée qui était disponible et gratuite et de qualité, qui va être raréfiée, qui va être privatisée avec les subventions de l'État. Et alors, on se demande, il y a par exemple l'exemple de la Vendée actuellement. Du côté des Sables d'Olonne, où il y a déjà des bassines qui sont
25, je crois. Ouais.
Les rivières se sont asséchées.
Ouais.
Et en fait, la seule flotte qui sort, c'est la flotte qui sort des stations d'épuration et de filtration de l'eau. En fait, l'eau qui a été consommée la semaine d'avant est recyclée et resservie au robinet pour les habitants et notamment, surtout, pour les plaisanciers et puis les touristes qui viennent l'été. Et là, d'ailleurs, il y a une contradiction au niveau des bassines parce que, en fait, d'un côté, on a l'industrie touristique qui ramène quand même des milliards à l'État, quoi. Parce que, la France est un pays très touristifié. Et de l'autre côté, on a un dispositif agro-industriel qui va complètement pourrir les conditions de venue, quoi. Je pense qu'à terme, ça va faire un peu comme les algues vertes en Bretagne, ça va dissuader un paquet de gens de venir sur les côtes, quoi. Mais ça, c'est bon, c'est une contradiction du système entre deux branches de l'industrie capitaliste, quoi.
Et c'est pas des blagues, hein. Pour ceux qui auraient la mémoire courte, la question de la flotte, elle va devenir de plus en plus prégnante et importante. Et on a vu à quelle vitesse ça va, puisque cet été, ce sont des dizaines et des dizaines de villages qui ont été obligés de se rationner dans le meilleur des cas, mais qui n'ont pas eu d'eau du tout et qui ont été obligés de prendre des douches à la casserole, quoi. On a vu que c'est une question qui est éminemment politique. Et on parle que d'ici 2030, il y aurait plus de 40% de la population française qui n'aurait plus accès à une eau potable, quoi. Donc c'est vraiment des questions qui sont fondamentales et primordiales, quoi.
Oui, surtout que tu parles de l'eau potable. Cet été, on a vu le gouvernement français modifier les limites maximales de pesticides dans l'eau, pour permettre justement de continuer à avoir une alimentation en flotte, quoi.
C'est ça.
C'était notamment dans le cadre enchaîné, il y a un mois là, ils ont expliqué comment en fait ils ont bougé les normes pour que l'eau soit toujours aux normes.
Ah, eh oui, non seulement il n'y en a pas assez, mais quand il y en a, c'est de la merde.
Voilà. Ouais.
Ok, non mais je pense que c'était important parce que tu vois toute cette polémique sur la soi-disant violence ou la violence inadmissible des manifestants de ce week-end a permis l'évacuation de toutes ces questions et le fait que effectivement il y ait 7000 personnes qui se soient déplacées pour participer à cette protestation et poser ces questions là qui était à l'initiative de ce rassemblement et quel était l'objectif de ce rassemblement, puisque on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont restés et il y a éventuellement le désir ou la volonté de créer un point d'occupation permanent, voire ce qu'on appelle une ZAD.
Alors bon, je pense qu'il faut citer les trois. Il faut citer les trois composantes. Hein. Bon, il y a l'historique, c'est Bassine Non Merci.
Mm-hmm. C'est une coordination, ça, nationale ?
Je crois pas. Je sais pas. Ça, j'avoue, je sais que ça existe dans différents départements.
Ok.
Et ça existe depuis... dans les Deux-Sèvres, ça existe depuis 4 ans.
C'est ça.
Et donc, c'est surtout, en fait, dans la région Vendée, Deux-Sèvres, et Charente, quoi. Parce qu'en fait, c'est un programme pilote qui va se généraliser sur tout le territoire si ça fonctionne, quoi. S'ils arrivent à implanter ça, quoi, sans que la population réagisse. D'où l'importance de cette lutte-là, quoi. Mm-hmm. Bon, après, il y a... Bon, donc, Bassine Non Merci. Sinon, la deuxième composante, c'est les soulèvements de la terre, qui existent depuis 2 ans, et qui favorise le développement de rapports de force sur différents projets d'aménagement industriel ou différents dispositifs industriels. Par exemple, ils sont intervenus dans le Vaucluse contre l'élargissement d'une zone commerciale et d'une zone industrielle qui allait artificialiser des friches. Ils sont intervenus dans le Jura par rapport à des parcelles de vinicoles qui étaient bloquées pour permettre l'installation de jeunes agriculteurs qui n'avaient pas de terre. Ils sont intervenus notamment à Paris contre des centrales à béton de Bouygues. La Farge. Et pour les communes ils les ont bloqués pendant une journée, quoi, pour dénoncer justement cette industrie du béton qui est à l'origine justement de l'artificialisation des terres. Bon voilà, ça c'est soulèvement de la terre. Ils sont bien présents, bien représentés à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où il y a un collectif qui anime
historique.
Ça. sinon il y a bien sûr la Confédération paysanne qui porte ces luttes-là, mais qui bon en fonction des différentes réalités départementales est plus ou moins active, tout ça, quoi. Voilà un peu les trois composantes majeures qui sont le squelette de la mobilisation. Après bon, ce week-end là il y a eu 150 signataires, hein, il y avait de tout, hein. Il y avait des syndicats, il y avait même la CGT. Il y avait des partis, Europe Écologie des Verts. Et puis, sinon, une kyrielle d'associations une carrière de l'association comme, bah, je sais pas, attaque.
Les suspects usuels, quoi, les habitués, effectivement. Ouais. La CGT au niveau national ?
Ah, bonne question. Là, il y a eu un porte-parole des deux CES qui était là, mais je crois que c'est aussi l'université qui.
C'est probable, étant donné, on va dire, la présence de quelques institutionnels, quand même, qui
étaient là. Oui, puis il y avait aussi la France Insoumise aussi. Je crois qu'ils sont signataires. Et bien sûr aussi le NPA, puisque nous avons eu la présence de Poutou.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions ? Comment cela s'est-il organisé ? Est-ce que vous avez pu avoir des espaces de débat à la fois sur ce que vous vouliez faire au cours de ce week-end et puis des discussions sur l'hypothétique avenir du mouvement ou de la lutte à Sainte-Soline ?
Ah, je vois que tu mets tout de suite le doigt où ça fait mal.
Mais tout à fait, il nous reste 40 minutes, donc...
Eh bien, écoute... Quoi ?
Non, non, je t'en prie, continue, je ricane.
J'ai le programme devant le nez, là, qui était tout à fait alléchant, quoi. Hein. Donc le vendredi, c'était point accueil, projection, repas sur place. Le samedi, à 10h, manifestation. Et après, il y avait... dès 19h, il y avait des concerts, tout ça. Et le dimanche, il y avait une assemblée des luttes de l'eau et demain, à 10h. Et après, à 14h, il y avait une assemblée quel partage de l'eau pour quel projet de territoire. Je me suis dit, bon, alors là, bien sûr, le morceau droit, c'était la manifestation du samedi. Tout le monde s'en doutait. Et là, bah, par contre, pour le dérouler, on y allait avec un peu les yeux fermés, quoi. On faisait confiance à l'organisation, hein, parce que bah, c'était réservé un peu au Happy Few. Et sinon, le dimanche, bah, je me disais, tiens, bah, on va avoir un beau débat, assemblée des luttes sur l'eau, et demain, alors le thème, c'était « Construisons collectivement les suites de la mobilisation ». Sur le chantier de Sainte-Soline et ailleurs. Et puis en fait, c'était un peu sec, quoi. Il n'y avait pas grand chose. Il n'y a pas eu de débat stratégique vraiment, quoi. C'était descriptif un peu, mais on n'est pas rentré dans le dur, quoi, avec notamment les coordinations avec d'autres luttes. Ouais. Puisque bon, je sais que par chez vous, historiquement, il y a un exemple, c'est la lutte antinucléaire et la lutte de la FIR, quoi, faire croiser les luttes anti-nuc et les luttes des sidérurgistes, et ça donne ça fait des étincelles. Mais là, pédale, il n'y a rien qui... Le débat stratégique, il n'est pas très ouvert, quoi. Hein. Ça doit être réservé aux structures qui portent la mobilisation, quoi. Ouais, et le débat après sur le partage de l'eau, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était une succession de prises de parole de différents collectifs. Alors, bon, ça fait plaisir, il y en a un paquet, mais c'est pas vraiment ce que j'appelle un débat, quoi. Un débat, à la limite, c'est poser des propositions avec des contradictions et puis une tentative d'élaboration collective d'une stratégie, d'une analyse, de tactique. Ça manque, quoi. Mais je pense que ça fait partie de la culture politique de nos amis qui organisent ça, quoi.
Ben, c'est toujours le même problème, voilà, de séparer et de sectionner. C'est un des gros problèmes, on va dire, de l'écologie politique en France et des mouvements écologistes en France en particulier, mais aussi d'une manière générale. C'est-à-dire de se retrouver cornérisé dans un truc qui fait que... la majorité ne se sent pas concernée ou ne voit pas pourquoi elle serait concernée. Alors que, on va dire, on est dans une période aujourd'hui où l'énergie, les biens premiers, que ce soit la bouffe, la flotte, l'essence, moyen de se déplacer, coûtent de plus en plus cher. Et de l'autre, on accapare des ressources pour un certain un peu plus petit nombre de trucs, et évidemment les travailleurs, ils sont concernés prioritairement par la question de la flotte, puisque cette question de la flotte, on le voit sur les factures, on va la payer, on la paye de plus en plus cher, quoi. Voilà.
Elle est de moins en moins bonne.
Elle est de moins en moins bonne, donc il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus, et surtout dans une période là où c'est de plus en plus difficile pour tout le monde, quoi. Où le capital arrive en bout de course et nous fait à la fois crever et en plus payer la facture.
Ouais. Ouais. Surtout que là, je reviens un peu sur le début de l'émission au niveau technique. Il faut bien préciser que le pompage, il se fait dans les cours d'eau. Alors théoriquement, il se fait pendant l'hiver, quand les eaux diluviennes, je reprends le terme du ministre de l'Agriculture, les eaux diluviennes de l'hiver tombent et où ça ne perturbe pas du tout le système. Et là, on pompe dans les rivières de façon à garder pour l'été, quand il fait chaud et qu'il y a plus
d'eau. C'est le schéma qui est...
En fait, on sait très bien qu'il y a de moins en moins d'eau, même en été, en hiver. Il y a les pluies diluviennes, on n'est pas à l'abri d'une tornade ou d'un orage, hein, et d'un ouragan, mais ça, il y a, au contraire. Mais c'est possible. Mais en fait, c'est pas ça qui permettra de pomper de la flotte pour remplir les bassines. Et d'autre part, de façon plus sûre, il pompe dans la nappe phréatique. Alors il y a deux types de nappe phréatique. Il y a une nappe phréatique qui se remplit par percolation, c'est-à-dire que l'eau de pluie traverse la terre et arrive dans les nappes, et là, elle séjourne. Et donc là, il y a des réserves qui sont renouvelables. Mais sinon, il y a d'autres nappes phréatiques qui, elles, sont plus profondes, ou alors dans des poches, quoi. Et elles, celles-là, c'est des nappes qui existent depuis très longtemps. Mais une fois qu'elles sont vidées,
a pu.
Il y en a plus. Et le problème des bassines, c'est que s'il y a une sécheresse permanente et durable et qui se renforce, hein, parce qu'on nous annonce des températures de dingue bientôt, et ben là, ça sera, ils vont taper dans les nappes permanentes et elles ne se renouvelleront pas. Et donc c'est pour ça que c'est important de justement, comme tu disais, que effectivement l'eau c'est une denrée qui est nécessaire à tous et à toutes, et que là ils vont venir ces méga bassines, elles vont assécher, elles vont tarir toutes ces potentiels, comme dire, qui devraient rester au commun, quoi.
C'est ça. Tu disais, hein, 18 km de canalisation pour alimenter cette saloperie. Et rappelons toujours...
Une seule bassine.
Ouais. Rappelons qu'on peut tenir 5 à 7 jours sans manger, mais qu'au-delà de 3 jours sans flotte, c'est terminé, on meurt. Voilà. On est composé à 90% d'eau, et on va rappeler au ministre de l'Agriculture que le cycle de l'eau, c'est le niveau CM1, CM2, hein, pour ceux qui s'en rappellent, hein, comment ça fonctionne. Ça s'évapore, ça monte, ça pleut et ça redescend. Voilà.
Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cycle de l'eau qui intéresse les gens, c'est le cycle du pognon.
Eh ben, je te propose, sur cette magnifique conclusion, de faire une première pause, et puis on reviendra sur le délire sécuritaire et sur ce qui s'est passé.
Et puis la politique aérienne quand même.
Après, dans la demi-heure suivante.
Attends, ouais, ça vaudrait le coup aussi de réfléchir un petit peu sur la nature de cette lutte. Parce que, par exemple, quand on voit les luttes sur le nucléaire, hein, qui sont un peu au niveau assez bas, quoi, actuellement, le nucléaire, c'était assez abstrait, quoi. Alors que là, les luttes sur l'eau, tout le monde a besoin d'eau, et c'est vraiment quelque chose de palpable et quelque chose de, comment dire, d'entendable par tout le monde. Parce que tout le monde se sent concerné, quoi. Et je pense que ça vaudrait le coup de réfléchir un petit peu, justement, à ces différentes luttes.
Eh ben, on essaiera de consacrer le dernier quart d'heure de l'émission à cette question-là, à cette projection-là. On se fait une pause et on se retrouve dans 3 minutes, Gérald. À tout de suite.
D'accord.
Hey cousin, te souviens-tu les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003? C'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe. Forteresse, les ghettos, les précaires et des millions de détresses. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse. Rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un reiki dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'ils rajoutent le mot durable à chaque phrase, ils continuent de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de cocoutons, goutte à goutte, faut pas démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villas, les séguées là. Faut grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la RIA. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yomango.
Nous, on est sur le pays.
comme l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca. Comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther. Comme le mouvement des sans-terre, comme les antinucléaires. Erruya désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se nourrir de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide. On entendra toujours dire que tout casse c'est pas bien. Ou le sang de éternel, à quoi bon ça sert à rien. On oublie que pour avoir mis la planète à genoux, ils n'ont pas été vraiment plus compréhensifs et doux. C'est la course contre la montre, il faut maintenant tout péter. Avec les pays du sud, c'est la solidarité. Nous on est truffés d'amour, pas le plus RFID. L'ADN de la connerie, on va tous le décoder. Faut coûte qu'un couteau, goutte à goutte ou pas démonter tout ça. Pour bloquer les Bolloré, les Monsanto, les Areva. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion leur fout le terroir. Comme le clan du néon, comme les déboulonneurs. Comme le groupe résistance à l'agression publicitaire. Comme les brigades de clowns ou les yes men et leurs phares. Comme le groupe génocide, made in France au champ de Mars, comme le mouvement des Contis défonçant la préfecture. Comme l'appel des 200 mètres, comme l'action des jeudis noirs. Comme l'endurance du réseau, éducation sans frontières. Rockin' à Deniso, ou Tikenja en victoire. Les films de Colin Serrault, de Pierre Carl ou Michael Moore. Comme les sites Wikileaks, comme des millions de hackers. Comme SL, Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi. Comme Ispera Sankara ou Adolfo Kaminski. Comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie. Comme ce que l'on fait chaque jour, modestement de nos vies. Faut coûte que couteau, goutte à goutte ou pas démonter tout ça. Faut bloquer EADS, Dassault, Thompson et Matra. Faut stopper les industriels et faire cesser leurs dégâts. Faut se remonter les manches et dévisser tout leur barda. Faut plus confier les manettes à tous ces paiements de l'ENA. Faut coûte que couteau, goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion leur fout le droit.
Vous écoutez les Grégoires, vous êtes dans une émission qui concerne les bassines. Gérard, tu nous entends un petit peu
hein, les mégas.
Quoi?
tu es là, c'est tout. Bon, tu te tais un peu, s'il te plaît.
C'est pardon.
Alors, justement, je voulais parler. Tu étais là, tu as vu comment que ça s'est passé par rapport à Jadot, par exemple, et par rapport.
Jadot, il a voulu prendre la parole. Il est arrivé avec des chaussettes dans ses du pied là, et puis le problème c'est qu'il a dû hurler pour essayer de s'exprimer parce que il s'est hué quoi.
Ah, il s'est fait huer.
Et c'est
une bonne chose.
Voilà quoi.
Ça nous rappelle des souvenirs.
Je crois que c'est le seul. Alors que Bluetooth s'est fait acclamer.
Bluetooth s'est fait acclamer, d'accord. Et les
on
autres.
Très mal.
Et France, de la France insoumise, comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'écharpes tricolores.
Oui, alors, bon, comme dire, parce qu'à Notre-Dame, effectivement, c'est, vous avez raison de poser la question, parce que à Notre-Dame-des-Landes, les gens qui se pointaient avec une écharpe tricolore, ils se retrouvaient avec un cajot d'épluchure sur la tête.
Oui, ça a changé quand même.
Hein?
Ça a changé quand même.
Ouais, là comme dire, c'est plus cadré, quoi. C'est moins à l'arrache, quoi. Mais bon après la bagnole de Jadot aussi s'est fait bomber avec un gros comme marqué crevure à la ceinture blanche.
Mais c'est une description voilà. Hein, c'est pas
hein,
c'est une description, c'est un élément descriptif, c'est pas une injure.
Oui.
Mais alors, avant de partir ce soir à l'émission, je suis passé devant un écran de télé, c'était BFM. Et il y avait, je crois que c'était quelqu'un à la France Insoumise qui était interviewé par un journaliste de BFM qui a coincé cette femme, c'était une femme, en lui disant « Mais je ne vous comprends pas, vous êtes républicain et vous participez à une manifestation interdite. C'est une contradiction, non ?» Et avec ça, elle a été embêtée, empêtrée, pour expliquer que, elle n'était pas anti-républicaine, mais que la République actuellement interdisait un peu trop de manifestations. Voilà. Mais bon, c'est quand même assez. C'est quand même le retour, quelque part, de ces élus qui représentent
Théoriquement.
Mais qui doivent être républicains, normalement. Ils sont coincés parce que, bon, ils participent à une manifestation interdite. C'est quand même difficilement explicable pour le commun des mortels.
Bah, il y a certains copains qui expliquent que, justement, accepter des personnes comme Jadot ou alors des gens avec leur écharpe républicaine, je crois qu'il y a une députée qui s'est fait matraquer, d'ailleurs.
Ouais.
Eh ben, à les accepter dans ce genre de rassemblement, c'est au contraire leur tendre la perche, la dernière perche qui leur reste justement pour apparaître comme un peu contradicteur du système, quoi.
Tout à fait.
Donc, ça se discute parce que je pense que ça gêne aussi quelque part. Ils ont dit c'est difficile, c'est plus difficile pour les médias de caractériser un rassemblement comme ça où manifestement le discours il n'est pas complètement délirant et il est tout à fait cohérent, il est tout à fait pragmatique et au point que il y a on a des politicards qui viennent essayer de faire leur beurre là-dessus quoi.
On l'a dit, Gérald, au cours de la première demi-heure, de toute façon, les questions qui sont soulevées par ces aménagements et les questions politiques qui sont liées à la question de l'eau, ils sont fondamentaux et ils sont de plus en plus craignos, quoi. N'importe qui a un peu de capacité de détachement et d'analyse le voit concrètement, réellement, matériellement, ça nous touche, quoi. Donc c'est plus un discours des berluets. Et alors la seule question sur laquelle a pu jouer justement le pouvoir, c'est le délire sécuritaire, puisque Denis le faisait remarquer, il y a eu toute une construction au cours de la semaine avec le bon rôle qui a été pris par la nouvelle préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Dubé, là, qui a interdit le rassemblement. Et puis, la présence de 1500 à 1700 gendarmes, c'est-à-dire que si on imagine qu'il y ait eu 10 000 personnes qui soient passées au moment du week-end, un gendarme pour 5 manifestants ou pour 5 personnes, on est dans des ratios quand même complètement hallucinants et on imagine bien que ces gendarmes-là, ils n'étaient pas venus pour débattre de la question de la flotte, enfin peut-être de la flotte dans le Ricard chez eux, mais en tous les cas, pour pas jouer aux cartes, hein, ça c'est sûr. Donc il fallait bien qu'ils servent. Et puis dernière étape, le délire là, depuis lundi 8h du matin avec le petit Darmanin qui se lâche, qui lâche le gros mot éco-terroriste et évidemment le jeu dans lequel il s'amuse à piéger, on va dire, la gauche sociale ou qui pourrait encore avoir un lien avec les mouvements sociaux, a obligé de se déterminer là parce que là forcément il faut assumer. Voilà.
Ouais. Alors, il y a peut-être un truc que vous savez pas. Mais lors des questions au gouvernement, qui va y avoir cette semaine, alors ça va être mercredi, je crois, les questions au gouvernement, il y a deux députés RN à l'Assemblée qui vont poser la question au gouvernement, savoir pourquoi Darmanin, justement, le gouvernement n'a pas arrêté les leaders bien connus du rassemblement pour justement tenter d'empêcher. Tous ces affrontements, quoi. Donc là, bon, la lutte, elle a crevé un peu le plafond médiatique, quoi. Elle est rentrée un peu sur la scène médiatique, et donc il y a toutes les manœuvres qui sont en train de se mettre en place. Et ce qui explique que il y a des députés justement qui sont coincés par des journalistes sur des questions qui les mettent en porte-à-faux, quoi, parce que c'est des gens qui sont tellement éloignés des luttes. Quand on leur parle de lutte, même s'ils essaient de les soutenir pour faire leur beurre au niveau électoral, ils savent plus comment réagir et comment expliquer que la République, c'est quelque chose justement de pas si forcément au service du peuple.
Eh oui, c'est aussi les casques et les matraques, hein, la République, et les interdictions et les préfets, et c'est surtout d'ailleurs les interdictions et les préfets, la République, hein. C'est plus que les mouvements sociaux et la désobéissance et le respect de l'eau et de la nature, quoi. Ça, c'est sûr.
Mais c'est pas nouveau en même temps. Hein. Bon, moi je suis à Nantes, j'ai participé à la lutte contre l'aéroport. La lutte contre l'aéroport, ça a duré très longtemps. Et L'arrêt du projet a seulement été mis en 2018, mais il y a eu des interdictions, des zones rouges. Alors il fallait développer des ruses de sioux pour rentrer sur le territoire, quoi. Bon, les gens finissent par trouver des passages, hein. C'est compliqué de verrouiller un grand territoire, quoi. Bon, là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu, il y a des chemins qui ont été repérés, et puis hop, les gens sont venus. Donc, mais c'est un dispositif qui est pas nouveau, qui était notamment qui a été mis en place sous Hollande et le PS.
Ouais, bien sûr. Et puis bon, c'est aussi quelque chose. Là, il y a eu beaucoup de monde, donc ça a permis, comme tu l'as dit, de sortir du plafond médiatique. Mais pour certains d'entre nous qui étaient à Sivens, ces questions-là sur la flotte et sur les liens avec l'agro-industrie et les gros agriculteurs, on les porte depuis quelques années, quoi. Bon, c'était localisé, mais là, avec la question du dérèglement climatique, ça arrive directement. Mais bon, là, faut dire quand même que du côté du pouvoir, on a un peu chargé la barque là avec cette histoire d'éco-terrorisme. Rendez-vous compte, 40 fichiers S qui ont participé aux manifestations. Il y a des rassemblements de fichiers S maintenant. On attend à quand l'association de fichiers S. On attend ça avec grande impatience. Hein. Préparez vos fiches. Vous ne le savez pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas si on est fiché S, hein, donc c'est même pas drôle. Enfin bon, peu importe. Ce que tu disais aussi, ce qui était important, c'est pour justement sortir de ce piège de lutte, de cornérisation de la part de pouvoir, c'est d'avoir la capacité d'élargir et de montrer que cette question qu'on appellerait faussement écologique, elle est d'abord une question politique et donc sociale, quoi. Cette question de l'eau, elle concerne tout le monde, et il est hors de question que des spécialistes, qu'ils soient hydrologues, bien sûr, ils peuvent nous renseigner sur les trucs de l'eau, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne concerne pas que les agriculteurs ou ceux qui se baladent dans les champs ou ceux qui se baladent dans les bois. Ça concerne la société tout entière, quoi. Quels arguments tu pourrais apporter à cette affirmation ?
Au niveau de la critique de l'expertise.
Pas de l'expertise, mais de la question que c'est une question politique, donc sociale.
Oui.
Oui, tout à fait. Je t'en remercie.
Le problème, c'est justement une des deux grosses critiques qu'on peut faire par rapport au rassemblement de ce week-end, c'est qu'il n'y a pas eu enfin, il y a très peu. C'est sous-entendu, bien sûr, hein, pour les gens qui savent lire entre les lignes, on devine la critique anticapitaliste. Mais dans les buts du rassemblement, alors on nous parle de défense de l'outarde canne-petière, c'est une outarde qui vit encore dans les Deux-Sèvres et dans le Marais Poitevin. On nous parle d'être amis avec la nature, etc., quoi. Mais par contre, ça se positionne pas clairement par rapport au capitalisme, comme si c'était un mot tabou. Les appels se basent pas là-dessus et n'appellent pas à une globalisation, justement. Et bon, il n'y a pas le mot révolution. On ne parle pas de révolution. On ne parle pas d'anticapitalisme. on reste sur insurrection, bien sûr. Émeutes, confrontations, débordements, mais il n'y a pas. C'est toujours ce problème du débat stratégique qui est occulté. C'est-à-dire que ça passe par l'implicite. Bon, ça correspond à une certaine sensibilité politique qu'on connaît. On se reconnaît de façon induite, quoi. Mais il n'y a pas d'énonciation d'une stratégie globale avec en s'appuyant notamment par rapport aux expériences passées, parce que je pense que quand on parle de changement de société, quand on parle de révolution et d'anticapitalisme, il faut absolument analyser ce qui s'est passé et puis dire où on se situe. Donc il y a ça qui manque un peu dans ce mouvement, je trouve. Ça reste assez citoyenniste, hein, pour ratisser large. Alors bien sûr, on a 140 associations, partis syndicats qui signent, mais en fait, ils signent quelque chose qui est assez fade, quoi.
Ouais, complètement. Ouais, bien sûr. Et sa jeune personne. C'est pour ça qu'il y a des Jadot comme ça, ou des Rousseau aussi, parce que Rousseau, elle est venue.
Oui, Rousseau aussi.
C'est pour ça qu'ils peuvent venir dans des rassemblements comme ça, parce qu'ils sont pas... l'appel en soi, ils peuvent toujours se réfugier derrière l'appel qui est assez neutre, quoi.
Il y a un problème de dénomination du problème et de l'ennemi, quoi. Si effectivement on n'explique pas, ou même si on explique, mais qu'on n'aime pas que l'agro-industrie, c'est aussi le capital et la bourgeoisie, et c'est aussi l'État, que tout ça, ça marche sur ses quatre pattes, hein, ou ses deux pattes, selon l'espèce à laquelle on appartient, ça peut pas, n'importe, enfin, pas n'importe qui, mais c'est pas anormal que des sociaux-démocrates, encore, appelons-les comme ça, même si c'est pas le cas,
des gentils,
voilà, puissent se saisir de ça, quoi.
De toute façon, le problème, c'est on est devant la question des bassines. Quelque part, c'est la problématique du capitalisme, ou du capital plutôt, à trouver toujours de nouveaux terrains de rentabilité, des nouveaux terrains d'investissement. Il y a un bilan classique qui est dit que tous les aspects de la vie aujourd'hui sont gérés par l'État et le capitalisme s'y glisse, quoi, que ce soit la santé, l'éducation, etc. Et là, dans l'agriculture, ces méga bassines, ça symbolise de façon très très visible, c'est le moins qu'on puisse dire, justement cette injection de capitaux dans un dispositif comme l'agriculture, quoi, qui concerne tout le monde, bien sûr, parce que tout le monde doit manger pour survivre. Et c'est vrai. Et là, il y aurait vraiment beaucoup à dire, quoi. Mais là, bon, actuellement, il y a peu de développement là-dessus, il y a peu d'énonciation d'une globalité anticapitaliste nécessaire.
Ben c'est un le problème de l'eau, de la flotte, c'était un problème qui était annoncé, puisque ça fait déjà en gros une dizaine, voire une vingtaine d'années que il y a des alertes et des rapports et des annonces sur le Forum mondial de l'eau, mais c'est comme si ça avait été toujours repoussé, parce que le problème de l'eau nous apparaît comme un non-problème à nous, occidentaux, européens, puisque la flotte, pour nous, c'est un robinet qu'on ouvre et il y a de l'eau qui coule. Et donc on referme. On oublie souvent qu'une personne sur cinq dans le monde habite à plus de 10 kilomètres d'un point d'eau potable. Et quelque part, le surgissement de la question de la flotte dans nos sociétés contemporaines depuis un an de manière aiguë, mais depuis quelques années de manière récurrente, c'est aussi quelque chose qui saisit, quoi. Un peu comme la question de la pandémie il y a eu quelques années, mais la question aussi là de la santé et des épidémies de bronchiolite toutes ces questions là qui font que il y a un peu un saisissement de la part des sociétés, quoi. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce qu'on va avoir assez d'eau pour passer l'année, quoi. C'est quand même incroyable.
Ça va aussi poser la nécessité d'une modification de notre mode de vie. Aujourd'hui, il est courant d'entendre des gens dire qu'ils prennent une douche le matin et le soir, quoi. Qui sont constamment sous la flotte, quoi.
Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Non, mais ça, c'est comme une obsession de la propreté, une obsession de l'hygiène, qui est on est conditionné par ça, par la publicité, par la production audiovisuelle. Il y a une forme de consommation de shampoing, de crème, de salon, qui est complètement délirante. Mais ça va pas être possible, quoi. Ça peut pas continuer. Il suffit de regarder la consommation d'eau d'un Américain, enfin d'un habitant des USA. Ça paraît complètement délirant. Je crois que notamment le Colorado, qui était avant un grand fleuve qui se jetait dans le golfe du Mexique, il est quasiment asséché tellement il y a des pompages d'eau pour satisfaire la Californie, ou alors des villes complètement ahurissantes comme Las Vegas, quoi.
Tout à fait. De l'autre côté, en Irak, berceau de la civilisation, là on a inventé l'écriture, c'est terminé pour le tigre, hein. Donc le tigre et l'Euphrate de grands fleuves qui ont vu naître une partie de la civilisation, une des plus brillantes civilisations, sont pratiquement à sec et sont pratiquement terminées.
C'est Erdogan avec ses barrages.
Entre autres, ouais. Et le pompage aussi. Et dans certaines régions du Mexique, le Coca-Cola est moins cher que la flotte, quoi. Voilà, c'est ça peut-être la solution que vous nous apportez, la bourgeoisie et le capital, c'est de dire que ben quand c'est gratuit, on fait pas attention, donc on va donner un coup, quoi. Voilà. On va.
Je tenais aussi, je pense à un truc là, parce que là je vois l'heure qui avance. Je tenais à revenir sur la lutte de Sainte-Soline. En fait, il y a eu un ultimatum qui a été envoyé au gouvernement de 15 jours pour démanteler le début de chantier là, de la bassine. Le mouvement s'engage à venir la démanteler lui-même.
D'accord. Est-ce que le rassemblement a réussi, si ce n'est à stopper, au moins à ralentir le chantier ? Est-ce que la canalisation qui aurait été démontée permet en tous les cas de retarder les travaux ?
Non, faut pas rêver. Quand on connaît maintenant la puissance des engins de chantier, on sait très bien que recoller un tuyau d'adduction d'eau, ça se fait rapidement.
Ça se fait.
Et là, le trou a été fait, il a été fait en 3 jours.
Hein.
Et
16 hectares en 3 jours.
Oui, mais maintenant c'est des machines qui sont tellement puissantes.
Ouais,
le vendredi, ils ont chargé les bulles et toutes les excavatrices. Ils les ont chargées sur des porte-chars et ils les ont envoyées vers Niort. Et là, normalement, ils les ramènent mercredi. Donc, bien sûr. Ça peut donner lieu à différentes initiatives. Mais je sais pas, j'en sais combien. Moi, je suis rentré sur Nantes. Mais en tout cas, d'ici quelques semaines, je pense qu'il va y avoir de nouveau un appel parce que vraisemblablement le syndicat de l'eau qui crée les bassines va maintenir la pression, bien sûr. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il renonce aussi facilement. Et donc, il va y avoir sûrement un nouvel appel dans les semaines qui viennent. Il faut noter aussi que sur le terrain où s'est organisé le campement qui a été prêté par un agriculteur qui a justement changé d'avis, qui faisait avant partie du syndicat de l'eau et qui a rompu avec ce syndicat de l'eau en dénonçant les conneries dont c'est le porteur, quoi. Donc il a prêté le champ. Et sur ce champ, il y a une vigie qui a été édifiée, de façon on peut voir ce qui se passe sur la méga bassine, quoi. Ouais. Et donc ça sera un lieu justement où il y aura une permanence qui va exister. Et ou peut-être éventuellement des gens qui vont s'installer de façon un peu plus durable selon les circonstances. Donc c'est un sujet, la lutte contre la mégabassine de Sainte-Soline, c'est quelque chose qui va sûrement rebondir dans les semaines qui viennent, quoi.
Ce que je disais
au début de l'émission, c'est la première d'une série de 6 mégabassines.
Tout à fait. Ouais. Et le camp est installé chez un privé.
Ouais, c'est okay. Pour ça que ça a été possible.
Ouais. Ouais, c'est plus chiant pour expulser, quoi. D'accord.
Ouais.
Et il nous reste que quelques minutes. Quelle était l'ambiance générale ? Est-ce que les gens étaient contents d'être là, combatifs ? Est-ce que toi, tu repars de ça avec la banane et le sentiment que ça a été quand même un succès ou le début de quelque chose ? Et est-ce que ton sentiment, il est partagé ? Est-ce qu'il y a
eu des... Ouais. Bon, personnellement, j'ai eu de la chance, j'ai pas réfléchi, je suis allé dans la... Il y avait 3 colonnes pour aller vers la bassine, j'étais dans la colonne rouge. Et c'était la colonne qui a été la plus... peut-être la plus offensive, quoi. C'était quelque chose, hein. Ça va rester dans les mémoires de ceux qui y étaient.
Ah.
C'était quelque chose. Au début, d'ailleurs, il y avait Poutou et accompagné de quelques personnes qui disaient anti-capitalisme, mais là, quand il a vu comment ça s'est déroulé, au bon, on l'a tout entendu. Et il a disparu. Non, c'était vraiment d'une haute intensité, on dira.
Ah ouais?
Ouais. Je sais pas si le premier choc, quoi, pour passer la première barrage de flics, c'était quasiment des scènes comme, je sais pas si vous avez déjà vu les scènes d'émeutes qu'il y avait en Irlande du Nord, à Belfast, quand les républicains
s'affrontaient
aux soldats. Bah là, c'était vraiment.
Donc il y avait un niveau de motivation et quelque part la confrontation, elle était assumée, quoi.
Ah ouais, de détermination là. D'accord. Wow.
Très bien.
Il y a quand même eu, on a quand même passé 5 lignes. Hein.
D'accord.
Les flics à chaque fois ils se repositionnaient avec leur camion, on les voyait arriver parce que comme ils ont niqué tout le bocage, on voit très très bien. Bon, ils nous voient, mais on les voit.
C'est ça.
Et donc, ils arrivaient à toute allure avec leur camion, ils se disposaient et boum, on repassait une ligne et hop, champ. Allez. Alors par contre, pour courir, là, faut reprendre le footing, hein, parce que
là, il fallait prendre ses baskets.
Comme ça, toutes les manifs.
Spécifions quand même que le maintien de l'ordre à la française et à la campagne a toujours un petit peu plus de mal, quoi. C'est toujours le gendarme mobile dans la ruralité, c'est toujours quelque chose d'autre. Mais bon.
Après, il faut rester lucide. Hein. Mmh. Ils sont armés, ils sont très très armés. Hein. Il y a quand même eu des gens qui se sont pris Il y a eu 4 personnes qui ont pris des flashballs,
okay.
Dont un dans la tempe et un dans le front. Il y en a un autre qui est dans le pif. Les flics, c'est pas des bisounours, hein, ça n'a pas été fait comme ça facilement.
Okay.
C'est parce qu'il y avait des gens qui étaient bien, comment dire, décidés, quoi, que la colonne, on était quoi, environ 1500, qu'on a réussi à passer au pas de course, au nez à la barbe des flics, quoi, mais c'était quand même, c'était pas facile, quoi.
D'accord.
Il y a quand même eu une cinquantaine de blessés légers,
c'est
quoi.
Ça, hein. Ouais. Ok. Et donc, tu disais, les gens repartent de ça quand même avec de la détermination, de l'envie de continuer et le sentiment d'avoir réalisé un premier succès, en tous les cas, une première étape positive.
Ah, complètement. Hein. Ça donne vraiment envie d'y retourner. Parce que bon, c'est vraiment... pour une fois que... Le projet, il est tellement débile, tellement insensé,
c'est
tellement
ça.
Dégueulasse, quoi. La colère qu'on éprouve, quoi, ça donne envie d'y aller.
Ok. Ouais. Eh ben, nous, on aura peut-être l'occasion, si ce n'est d'y aller, en tous les cas, de revenir dans le détail sur cette lutte. Ce qui, à mon avis, va être le cas. Bon, on sait qu'il y a une dizaine d'interpellés, c'est ça. Il y avait déjà 4 personnes qui sont prévues pour la comparution immédiate. De ce soir, si ce n'est demain matin, voir si le tribunal de Niort va fonctionner un jour férié. Il va falloir être attentif, puisque en général, quand l'État se prend un petit coup, une gamelle ou un début de défaite, il a tendance à sortir les crocs sur la deuxième manche et la deuxième manche judiciaire. Et que, effectivement, médiatiquement, là, ça embraye assez fort, puisque si vous ne savez pas ce qu'est une méga bassine, hein, et si vous ne savez pas ce qui se passe à Sainte-Soline, et si vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas eu d'eau cet été, vous êtes certainement que vous saurez obligatoirement qu'il y avait des fichiers S qui manifestaient à Niort ce week-end et qu'ils ont reçu le soutien de la France insoumise, ça c'est sûr, et que le pauvre Yannick Jadot s'est fait, chahuter. Avec sa voiture, voilà. Ça, vous le saurez. Donc, il faut espérer que les camarades qui ont eu le malheur de se faire attraper vont pouvoir se défendre. Merci beaucoup, Gérald.
Mais de rien.
Merci. Et à très bientôt.
Puis à très bientôt.
Pour de nouvelles aventures.
J'espère bien,
oui.
Salut.
Salut.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.